Peut-on être heureux au travail? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec Laure Wagner, qui est porte-parole de Blablacar, Corinne Godard, ergonome et chercheur au CNRS, Dominique Glocheux, qui est spécialiste de l'optimisme. Le bonheur n'est évidemment pas le même pour tous, et on imagine bien que pour un cadre en entreprise, pour un employé de chez Blablacar ou pour un ouvrier, la question ne se pose pas du tout de la même façon. Dominique Glocheux, qu'est-ce que ce serait le bonheur au travail selon vous?
Alors déjà, c'est une chance que d'avoir un travail. Parce que grosso modo, la population active sur les 66 millions de Français, on est quoi? Il doit y avoir 25 millions de personnes qui ont un travail. On a 3 millions de chômeurs et tout le restant n'a pas de travail. Déjà, avoir un travail, c'est un privilège, en tout cas en France. Ensuite, qu'est-ce qu'être heureux au travail? Je pense que chacun a sa propre définition. Je pense que chaque entreprise également a sa propre définition du bonheur.
Alors c'est possible, quoi qu'il en soit, de souhaiter le bonheur de ses salariés. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Je ne sais pas. Laure Wagner, vous êtes donc la porte-parole de Blablacar, une société en France et une start-up. C'est peut-être important de le préciser d'ailleurs, puisque c'est une start-up et que ça touche beaucoup les start-up, hein, cette idée de s'emparer comme ça du bien-être des salariés. Qu'est-ce que vous faites pour rendre heureux vos salariés?
Mais effectivement, déjà, on est une start-up et on a choisi de partir d'une page blanche pour faire quelque chose de chouette, de différents et de pas se prendre les mêmes murs que certaines grosses sociétés ont pu se prendre. Et le bonheur au travail, pour nous, il a différents aspects. Donc il y a effectivement, est-ce qu'on est fier de son travail? Il y a les conditions de travail. Est-ce que le bureau est bien? Est-ce que la déco est sympa? Il y a aussi le sens et l'alignement avec ses valeurs propres. Et on a essayé de jouer sur tous ces plans chez Blablacar. On a coécrit nos 10 valeurs qui nous permettent de travailler en harmonie ensemble et de prendre des décisions cohérentes sans avoir tout un tas de processus à suivre. Donc ça donne une certaine liberté à tout le monde, mais en même temps on va dans la même direction. On est fiers de notre travail parce que du coup on est en réussite. Donc oui, tout ça réuni fait que on est dans les tops des classements, on est même devant Google au classement. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble de l'équipe.
Et alors, sur quels sont ces concepts que vous avez fondés?
Alors, je peux vous en parler pendant 2 heures, mais une qui est importante, enfin c'est un petit peu la valeur ombrelle, c'est fun and serious. Donc tout est en anglais chez nous parce qu'on est dans 22 pays maintenant, Blablacar, hein. Donc notre communication interne se fait en anglais. Fun and serious, c'est pour dire qu'on peut avoir un fun collectif si individuellement on est tous sérieux dans notre travail, parce que du coup, on va bien s'entendre avec nos collègues, parce que on respecte le travail de chacun, on s'entraide, et du coup, il y a une bonne ambiance générale, et on peut, y a pas mal de rituels chez nous. On a le petit déjeuner du vendredi matin, un déjeuner un peu aléatoire, en fait. Le mercredi, on a la possibilité de manger avec des collègues qu'on connaît pas forcément, on s'inscrit sur une application, et ça nous envoie une liste de 3 collègues avec qui on peut déjeuner, c'est chouette, ça crée du lien. C'est plein de rendez-vous comme ça dans la semaine.
La possibilité, par exemple, de passer, quand on est salarié de chez Blablacar, une semaine dans un des bureaux à l'étranger.
Ça
également
aussi, c'est un avantage. Donc là, c'est vraiment la catégorie des avantages offerts aux salariés. Il y en a deux principaux. On voyage en covoiturage gratuitement parce que on a envie d'être les utilisateurs les plus critiques de notre service. Donc ça, c'est un avantage. Et puis l'autre, effectivement, c'est de pouvoir travailler une semaine par an dans un de nos 15 bureaux à l'étranger. Mais surtout, ce qui, je pense, crée vraiment le bonheur chez nous, c'est pas tellement d'avoir un baby-foot et un ping-pong, même si c'est cool, c'est très start-up, mais je pense que c'est plutôt le sens qu'on donne au travail, la transparence, le fait que les fondateurs soient très ouverts sur l'avenir, sur la vision, et qu'on sait tous à quoi sert notre travail au quotidien.
Que pense l'ergonome que vous êtes, Corinne Godard, chercheuse au CNRS, de ces entreprises qui sont manifestement de plus en plus nombreuses, et on le voit dans le classement que vous avez évoqué, il y a des classements des entreprises qui sont maintenant fondées sur le bien-être même des salariés. Est-ce qu'un exemple comme Blablacar, c'est une marche à suivre pour vous?
Pour suivre dans ce sens, il me semble que, pour revenir à la question de départ, ce qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, cette question du bonheur au travail ou d'être heureux au travail se pose et devient légitime socialement. C'est-à-dire qu'on attend du travail qu'il puisse nous rendre heureux, et c'est pas du tout certain que cette question aurait été formulée quelques décennies auparavant, hein, où l'idée du travail, c'est le travail, ça blesse, ça fait mal, et c'est normal. Donc il y a des attentes, hein, on a longtemps fonctionné avec ce modèle-là. Donc il y a aujourd'hui des attentes sur le travail, c'est autre chose, ça doit nous apporter du bonheur, du plaisir, etc. Et ce que cette question révèle, me semble-t-il, c'est que c'est ce qu'on pourrait appeler la centralité du travail. C'est-à-dire que le travail est aujourd'hui central pour arriver à se construire, à construire son identité sociale, personnelle. Et donc, on attend du travail qui puisse être un temps et un espace où on puisse s'épanouir. On parle de bien-être, de bonheur, etc. etc. Et puis, si on regarde aussi un peu ce que, par exemple, nos collègues sociologues peuvent dire, ces évolutions aussi changent. Et à la fois, on demande à ce que le travail puisse nous apporter du bonheur et on attend aussi que les différentes sphères de nos vies, hein, en dehors de celles du travail, puissent nous apporter aussi un espèce d'épanouissement personnel. Donc, on voit des personnes qui peuvent être en concurrence dans les différentes sphères de leur vie et savoir comment on peut les accorder ou comment, au contraire, elles rentrent en conflit. Et quand le travail déborde, par exemple du fait de l'intensification du travail, cette tension entre les différents temps de la vie peut créer des situations compliquées à gérer.
Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de toutes ces études qui disent que bah justement le fait de se sentir bien au travail améliore la compétitivité de l'entreprise, Dominique Glocheux?
Il y a plusieurs études qui ont montré qu'une entreprise dans laquelle les salariés sont heureux est beaucoup plus profitable, grosso modo. Pour ce qui concerne la loyauté, ils sont trois fois plus loyaux. Ils seraient, je crois que c'est 27% plus rentables. Enfin bref, il y a tout un ensemble. Mais je voudrais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure à propos des risques psychosociaux. Je pense qu'avant de parler du bonheur au travail, il serait essentiel de réduire les risques psychosociaux. Et pour cela, nous avons à notre disposition un ensemble d'indicateurs quantifiables et comparables, tels que par exemple l'absentéisme, ou pire, le présentéisme, c'est-à-dire des gens qui restent au boulot mais à des heures indues. On parlait tout à l'heure de l'autonomie individuelle. Il faudrait parler également de la charge de travail. Il faudrait parler des moyens mis à la disposition des salariés pour favoriser la santé au travail. Il en va par exemple de la cantine, il en va du médecin du travail, etc. Donc il y a un ensemble d'indicateurs qui permettent très facilement de voir rapidement s'il y a des problèmes qui vont surgir et qui vous permettent de prévenir ces problèmes-là. Tous ces indicateurs-là, ça demande énormément de travail en amont, que ce soit pour les leaders, leurs équipes, pour les psychologues du travail qui doivent faire des entretiens collectifs avec, par exemple, les dirigeants, mais également les représentants du personnel.
Corinne Godard, ergonome.
Oui, moi je suis assez contente d'entendre Laure Wagner dire qu'il suffit pas de mettre une table de ping-pong et un baby-foot pour que les gens soient contents, parce que c'est aussi parfois l'image qu'on nous renvoie, entre autres des start-up, où tout le monde est heureux, on déjeune ensemble, on fête les anniversaires, etc., etc. Donc je suis contente de vous entendre dire que ça relève aussi d'autres composantes. Et ce que vous soulignez me semble tout à fait pertinent, et la question du sens du travail reste absolument fondamental. Et on pourrait imaginer, alors je ne connais pas l'organisation du travail chez BlaBlaCar, mais que les collectifs de travail sont aussi dotés d'autres caractéristiques que celle de pouvoir accéder à la table de ping-pong, qui fait que ça tient et que ces salariés puissent être heureux. Ce qui nous semble fondamental, et là je vais défendre le métier des ergonomes, c'est de pouvoir avoir des espaces dans l'entreprise où on puisse discuter du travail qui se fait concrètement, et j'irai même un peu plus loin, le travail tel qu'il est fait concrètement, mais aussi celui qu'on ne fait pas et qu'on souhaiterait peut-être faire ou faire autrement.
On peut aussi se poser la question à l'inverse, et je me fais peut-être là un peu l'avocat du diable, mais finalement, est-ce que ce serait le rôle, est-ce que c'est à l'entreprise de rendre son salarié heureux, Dominique Glocheux?
Oui, effectivement, c'est le...
Est-ce que c'est le boulot de l'entreprise?
Oui, non, mais c'est mon travail, en fait, de conférencier et d'auteur de livres, effectivement. On est à cheval entre l'entreprise et l'individuel, effectivement. Est-ce que c'est pas la dernière frontière à conquérir? Ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, c'est très intéressant. À savoir que le bonheur aujourd'hui, c'est devenu une tarte à la crème. On en parle, on a complètement dénaturé le sujet. Est-ce que l'important ne serait pas tout simplement d'être bien, bien avec soi, bien avec sa famille, ses amis, ses enfants, etc. C'est une nouvelle aventure, et pour cela, voir la vie en rose, effectivement, c'est presque une révolution pour plein de gens.